Chapitre 2. La marchandise travaille. Dans l'exposé historique qui précède, nous venons de constater que le sabotage, sous l'expression anglaise de Gokani, découle de la conception capitaliste que le travail humain est une marchandise. Cette thèse, les économistes bourgeois s'accordent à la soutenir. Ils sont unanimes à déclarer qu'il y a un marché du travail, comme il y a un marché du blé, de la viande, du poisson ou de la volaille. Ceci admis, il est donc logique que les capitalistes se comportent à l'égard de la chair à travail, qu'ils trouvent sur le marché, comme lorsqu'il s'agit pour eux d'acheter des marchandises ou des matières premières, c'est-à-dire qu'ils s'efforcent de l'obtenir au taux le plus réduit. C'est chose normale, étant donné les prémices. Nous sommes ici en plein jeu de la loi de l'offre et de la demande. Seulement, ce qui est moins compréhensible, c'est que, dans leur esprit, ces capitalistes entendent recevoir non une quantité de travail en rapport avec le taux du salaire qu'ils paient, mais bien, indépendamment du niveau de ce salaire, le maximum de travail que puisse fournir l'ouvrier. En un mot, ils prétendent acheter non une quantité de travail équivalente à la somme qu'ils déboursent, mais la force de travail intrinsèque de l'ouvrier. C'est en effet l'ouvrier tout entier, corps et sang, vigueur et intelligence qu'ils exigent. Lorsqu'ils émettent cette prétention, les employeurs négligent de tenir compte que cette force de travail est partie intégrante d'un être pensant, capable de volonté, de résistance et de révolte. Certes, tout irait pour le mieux dans le monde capitaliste si les ouvriers étaient aussi inconscients que les machines de fer et d'acier dont ils sont les servants et si, comme elles, ils n'avaient en guise de cœur et de cerveau qu'une chaudière ou une dynamo. Seulement, il n'en est pas ainsi. Les travailleurs savent quelles conditions leur sont faites dans le milieu actuel et s'ils les subissent, ce n'est point de leur plein gré. Ils se savent possesseurs de la force de travail et s'ils acquiescent à ce que le patron qui les embauche en consomme une quantité donnée, ils s'efforcent que cette quantité soit en rapport plus ou moins directement avec le salaire qu'ils reçoivent. Même parmi les plus dénués de conscience, parmi ceux qui subissent le joug patronal sans mettre en doute son bien fondé, jaillit intuitivement la notion de résistance aux prétentions capitalistes. Ils tendent à ne pas se dépenser sans compter. Les employeurs n'ont pas été sans constater cette tendance qu'ont les ouvriers à économiser leur force de travail. C'est pourquoi certains d'entre eux ont habilement paré aux préjudices qui en découlent pour eux, en recourant à l'émulation pour faire oublier à leur personnel cette prudence restrictive. Ainsi, les entrepreneurs du bâtiment, surtout à Paris, ont vulgarisé une pratique qui d'ailleurs tombe en désuétude depuis 1906. C'est-à-dire depuis que les ouvriers de la corporation sont groupés en syndicats puissants. Cette pratique consiste à embaucher un costaud qui, sur le chantier, donne l'élan à ses camarades. Il en met plus que quiconque et il faut le suivre, sinon les retardataires risquent d'être mal vus et d'être débauchés comme incapables. Une telle manière de procéder dénote bien que ces entrepreneurs raisonnent à l'égard des travailleurs comme lorsqu'ils traitent un marché pour l'acquisition d'une machine. De même qu'ils achètent celle-ci avec la fonction productive qui lui est incorporée. Note en bas de page. Il y a cependant des cas où le vendeur d'une machine ne cède pas intégralement à son acheteur la fonction productrice de ladite machine. Par exemple, certaines machines à fabriquer les chaussures, qui sont munies d'un compteur enregistrant le nombre des chaussures produites, et qui sont vendus avec la stipulation que l'acheteur paiera indéfiniment une certaine redevance par paire de chaussures produites. Fin de la note. De même, ils ne considèrent l'ouvrier que comme un instrument de production qu'ils prétendent acquérir en entier pour un temps donné, tandis qu'en réalité, ils ne passent de contrat avec lui que pour la fonction de son organisme se traduisant en travail effectif. Cette discordance, qui est la base des rapports entre patron et ouvrier, met en relief l'opposition fondamentale des intérêts en présence. La lutte de la classe qui détient les moyens de production, contre la classe qui, dénuée de capital, n'a d'autre richesse que sa force de travail. Dès que, sur le terrain économique, employés et employeurs prennent contact, se révèle cet antagonisme irréductible qui les jette aux deux pôles opposés et qui, par conséquent, rend toujours instables et éphémères leurs accords. Entre les uns et les autres, en effet, il ne peut jamais se conclure un contrat au sens précis et équitable du terme. Un contrat implique l'égalité des contractants, leur pleine liberté d'action et, de plus, une de ses caractéristiques est de présenter pour tous ses signataires un intérêt réel et personnel dans le présent aussi bien que dans l'avenir. Or, lorsqu'un ouvrier offre ses bras à un patron, les deux contractants sont loin d'être sur le même pied d'égalité. L'ouvrier, obsédé par l'urgence d'assurer son lendemain, si même il n'est pas tenaillé par la faim, n'a pas la sereine liberté d'action dont jouit son embaucheur. En outre, le bénéfice qu'il retire de son louage de travail n'est que momentané car, s'il y trouve la vie immédiate, il n'est pas rare que le risque de la besogne à laquelle il est astreint ne mette sa santé, son avenir en péril. Donc, entre patrons et ouvriers, il ne peut être conclu d'engagement qui mérite le qualificatif de contrat. Ce qu'on est convenu de désigner sous le nom de contrat de travail n'a pas les caractères spécifiques et bilatéraux du contrat. C'est, au sens strict, un contrat unilatéral favorable seulement à l'un des contractants, à un contrat léonin. Il découle de ces constatations que, sur le marché du travail, il n'y a, face à face, que des belligérants en permanent conflit. Par conséquent, toutes les relations, tous les accords des uns et des autres ne peuvent être que précaires, car ils sont viciés à la base, ne reposant que sur le plus ou moins de force et de résistance des antagonistes. C'est pourquoi, entre patrons et ouvriers, ne se conclut jamais, et ne peut jamais se conclure, une entente durable, un contrat au sens loyal du mot. Il n'y a entre eux que des armistices qui, suspendant pour un temps les hostilités, apportent une trêve momentanée aux faits de guerre. Ce sont deux mondes qui s'entrechoquent avec violence. Le monde du capital, le monde du travail. Certes, il peut y avoir, et il y a des infiltrations de l'un dans l'autre, grâce à une sorte de capillarité sociale. Des transfuges passent du monde du travail dans celui du capital et, oubliant ou reniant leurs origines, prennent rang parmi les plus intraitables défenseurs de leur caste d'adoption. Mais ces fluctuations dans les corps d'armée en lutte n'infirment pas l'antagonisme des deux classes. D'un côté comme de l'autre, les intérêts en jeu sont diamétralement opposés et cette opposition se manifeste en tout ce qui constitue la trame de l'existence. Sous les déclamations démocratiques, sous le verbe menteur de l'égalité, le plus superficiel examen décèle les divergences profondes qui séparent bourgeois et prolétaires. Les conditions sociales, les modes de vivre, les habitudes de pensée, les aspirations, l'idéal, tout diffère.